Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
La tuerie de Saint-Andéol, épisode 4. Un procès, c'est pour les parties civiles l'occasion de comprendre, de mettre des mots sur l'indicible, de faire le deuil. Pour celui qui est dans le box, c'est l'occasion de s'expliquer, de convaincre, de comprendre son geste. Bref, vous l'aurez compris, un procès, c'est une série d'occasions. Enfin, ça, c'est quand l'accusé parle. Éric Bruyas le sait, il est attendu. Son ex-épouse, son ex-belle-famille, tous veulent savoir pourquoi. Pourquoi il a tué Vincent, Odette, Vincent Salvatore et Aline. Et vous allez le voir, il y a pire qu'un accusé qui ment. Il y a un accusé qui croit à ses propres mensonges. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Au fond de sa cellule, Éric Bruyas s'accroche à ses versions bancales. Un homme a assassiné les Bébiens. Lui a juste mis le feu au pavillon. Puis, Bruyas se dit victime d'une vengeance de voyous de la pègre lyonnaise. Il parle d'une bande de maghrébins. Mais rien n'étaye ses thèses farfelues. Pourtant, il tient bon, il s'y accroche, avec l'énergie du désespoir. Et dans ce combat pour sa vérité, Bruyas n'est pas seul. Il a une alliée de poids, sa mère. Le 19 février 1999, il lance un appel dans Témoin numéro 1. Présenté par Jacques Pradel, cette émission, diffusée sur TF1, se propose de faire appel au public pour aider la justice à la manifestation de la vérité. Christiane Biéron, la mère de Éric Bruyas, lance donc un appel. Son fils évoque un véhicule blanc avec les assassins des Bébiens à l'intérieur. Il y croit, alors elle y croit. Elle demande à tous ceux qui ont croisé ce véhicule le jour du meurtre d'appeler la rédaction de l'émission. Et vous savez ce qui va se passer ? Ben rien, pas un seul appel. Dans les annales de Témoin numéro 1, ça n'est jamais arrivé. Maître Gabriel Versini-Bulara, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été l'avocat d'Éric Bruyas pendant l'instruction. Cette initiative, rappelez-vous, de faire appel à l'émission Témoin numéro 1, vous n'étiez pas pour. Pourquoi ?
Je vous remercie d'abord de me donner la parole après tant d'années d'une affaire ô combien symptomatique et pour laquelle, effectivement, Éric Bruyas m'avait demandé s'il y avait opportunité ou non d'abord de prendre attache avec vos confrères de la télévision pour cette émission Témoin numéro 1, pour non pas y aller lui-même puisqu'il était incarcéré, mais pour que je m'y rende aux fins d'exposer la situation qui était la sienne, et d'alerter l'opinion publique de France sur la nécessité pour tout un chacun, eh bien, éventuellement, d'appeler le standard de la chaîne de télévision concernée pour dire s'il y avait eu des témoins des faits. Raison gardée, je n'ai pas voulu y aller parce qu'il me semblait inopportun qu'un auxiliaire de justice vienne à se donner en spectacle à la télévision dans une affaire criminelle pour laquelle il y avait effectivement le secret de l'instruction. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que j'ai toujours considéré que le magistrat instructeur avait cette capacité d'instruire à charge et à décharge et que par conséquent, il lui appartenait d'investiguer dans les moindres détails pour faire éclater la vérité. Voilà les raisons pour lesquelles je n'y suis pas allé.
D'accord. Sa mère y allait, en revanche.
Alors, effectivement, sa mère y est allée. Elle m'a téléphoné pour me demander ce que j'en pensais. Somme toute, je n'avais absolument aucune directive ou intention à lui communiquer. Elle a voulu y aller et nous savons, effectivement, le résultat qui en est résulté.
Rien, donc. Le 18, voilà, rien. Le 18 octobre 1999, c'est donc le procès d'Éric Brouillasse qui s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône. À l'époque, le chroniqueur judiciaire du Monde, Acacio Pereiro, écrit, je vous rappelle, le visage inexpressif d'Éric Brouillasse ne laisse transparaître aucune émotion, il est beau gosse, mais son regard est froid, tout en lui est lisse. Quand il rentre dans la cour d'assises du Rhône, il a la démarche d'un cow-boy, sûr de lui, un rien hautain. Et devant ses juges, Brouillasse répond au compte-gouttes. Quand on lui demande de s'expliquer, il va lâcher. Je ne ferai aucun commentaire. Je ne peux donner aucune explication supplémentaire. Ou encore, il dit « C'est une décision que j'ai prise. Je n'en dirai pas plus. Quoi que j'ai pu faire, je suis innocent. » Éric Brouillasse l'avait confié en garde à vue « Quand on avoue, on se pend. » Maître, cette phrase « Quand on avoue, on se pend », est-ce que vous la comprenez et comment ?
On la comprend dès lors qu'effectivement, on a au tréfonds de soi-même l'indicible pensée qu'en fait, on est coupable. Et par conséquent, si on avoue, on se pend, c'est-à-dire que de deux choses l'une, où l'on avoue et on se pend parce qu'on a le remords d'avoir avoué, où l'on avoue et on se pend dans ce cas-là parce qu'on a fait la sottise d'avouer alors qu'on est innocent. Je pense que pour Éric Brouillasse, l'une et l'autre des configurations auraient pu s'appliquer à sa personne. En tout cas, il est un fait acquis, c'est que pendant ces quasi deux ans et demi, trois ans d'instruction où j'ai collaboré, entre guillemets, avec lui, nous avions effectivement affaire à quelqu'un d'assez secret, d'assez enfermé, et je n'ai pas pu sonder cet homme-là en dépit des années qui se sont écoulées. Donc, lorsque j'ai entendu effectivement la phrase qu'il avait formulée et que je l'avais lue, bien évidemment, dans le dossier, je me suis dit, voilà bien une bizarrerie, une étrangeté, qu'il a sa pensée plusieurs voies, plusieurs chemins dans la reconnaissance des faits, dans l'ignorance des faits ou dans le mensonge des faits.
Mmh. Et vous, maître, comment fait-on dans cette configuration pour porter la voix de la défense ?
Alors, c'est une question, chère madame, qui est le propre de tout questionnement, dans la mesure où souvent, nombre de personnes s'interrogent légitimement sur le point de savoir, mais comment faites-vous pour défendre l'indéfendable ? Comment faites-vous pour oser porter la robe que vous portez ? Et par conséquent, au travers d'une rhétorique bien assénée, eh bien, de tout faire pour obtenir l'acquittement de votre client.
Mm-hmm.
Je crois que raison gardée, et nous sommes dans une société où, effectivement, les règles procédurales sont à l'aune de ce qu'on peut espérer, il y a une nécessité absolue de défense d'autrui. Après, on peut effectivement, en tant qu'avocat, soulever la clause de conscience et ne pas aller, comme on dit trivialement, au charbon, parce qu'on n'a pas l'intention d'y aller, parce qu'on ne veut pas y aller, parce qu'on sait que de toute façon, il est inutile d'y aller. Pour ma part, j'ai porté le dossier pendant, disais-je, 2 ans et demi, 3 ans, parce que je sentais et il me semblait qu'il y avait, non pas une volonté pour moi d'influer d'une quelconque façon sur Éric Brouillasse, moi s'en fout, parce qu'on ne pouvait pas influer sur cet homme-là, mais à tout le moins de lui faire comprendre, ou tenter de lui faire comprendre, que son système de défense n'était pas le bon, qu'il fallait effectivement tout faire pour aller de l'avant et permettre que la clarté sorte des ténèbres. En l'occurrence, ma clarté n'était pas la sienne.
Bien sûr, ça ne marchait pas. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Est-ce que vous avez justement, vous en parlez depuis tout à l'heure, cet homme un peu insondable, est-ce que vous avez cherché, maître, à percer quand même malgré tout le mystère de cet homme et lui permettre de s'ouvrir? C'est quand même la difficulté hein, quand on est face à quelqu'un qui est un peu mutique. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces années où vous avez côtoyé cet homme?
Je vous l'avoue, ce furent des années, un terme un peu religieux, mais ce furent des années de purgatoire. Pardon, dans la mesure où j'allais le voir à raison de 2 après-midi par semaine, et je pesais effectivement la nécessité d'y aller, au motif que cet homme travaillait comme un forcené sur son dossier en cellule, qu'il m'inondait de documents pluriels et divers, qu'il fallait bien évidemment que j'analyse pour ne pas donner aussi bien au magistrat instructeur qu'à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon, où nous avons comparu tellement de fois que je ne saurais effectivement chiffrer le quantum de ces fois-là. Mais c'est un homme qui travaillait seul et qui attendait, si vous voulez, de l'autre, qu'il ne soit que l'exécutant. Mmh. Voilà, l'exécutant. Alors, j'ai essayé autant que faire se peut de lui faire comprendre que je n'étais pas son collaborateur, que je n'étais pas son exécutant, mais que j'étais un auxiliaire de justice qui avait un seul objectif, effectivement tout faire, déployer tous les moyens juridiques et procéduraux pour lui permettre d'aller de l'avant, d'abord dans sa réflexion juridique, intellectuelle, et aussi, alors je n'ai pas bien évidemment l'outrecuidance d'être psychologue, loin s'en faut, mais d'essayer de cerner un petit peu cet homme-là. Et vous me posez la question de savoir quel était-il, comment était-il, eh bien, je ne le sais pas, parce que ces deux années et demie passées avec lui de façon très conséquente m'a laissé un goût amer d'un homme dont on ne saura jamais rien, dont je ne saurai jamais rien. Je n'ai pas pu, jamais pu cerner cet homme, et c'est somme toute un petit peu un échec, parce que lorsqu'un avocat n'arrive pas à comprendre le système de fonctionnement de celui ou de celle qu'il défend, c'est qu'il y a une carapace telle de la part de la personne, en l'occurrence détenue, qui ne veut rien laisser transpirer. Mmh. Je vous l'avoue, aujourd'hui, en 2 ans et demi, j'ai pu faire rire ou sourire, du moins sourire cet homme-là, 2 ou 3 fois.
Ah oui, c'est fou.
C'est assez révélateur.
Oui, ouais, tout à fait. Un avocat, en tout cas, ne demande pas à son client, enfin, en tout cas, tous les avocats à qui j'ai posé la question, un avocat ne demande pas à son client nécessairement de dire la vérité, puisqu'il défend l'homme, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, tout le monde a droit à une justice équitable. Le cas Brouillasse, est-ce que vous, dans votre carrière, vous diriez que c'est un cas exceptionnel, ou beaucoup s'enferment ainsi dans leur vérité?
Je pense, si vous voulez, que vous avez raison de le préciser, l'avocat pénaliste n'a pas à influer ou à influencer son client pour qu'il reconnaisse les faits. On n'est pas là pour cela. On est là pour défendre un homme, coûte que coûte, comme on dit trivialement, et je me targue parmi tant et tant de confrères français à œuvrer en ce sens. Maintenant, on ne peut pas déployer des artifices pour essayer effectivement d'influer sur un homme. Je crois que celles et ceux de mes confrères qui viendraient effectivement à verser dans ce travers ne seraient pas, à mon sens, de véritables avocats pénalistes. Je crois que le propre de nos professions, c'est effectivement de tout faire, et puis de faire comprendre aussi que parfois, il faut réfléchir à l'orientation pénale ou intellectuelle ou procédurale dans laquelle on veut s'orienter, parce que cette orientation-là n'est pas la bonne. Et il nous appartient à nous, avocats, alors là, non pas d'influer, mais d'orienter, de guider un petit peu dans le désert ces hommes-là et ces femmes-là, pour leur faire comprendre que l'orientation dans laquelle ils risquent de se fourvoyer risque effectivement de les entraîner au tréfond des enfers. Mmh. Maintenant, il appartient à M. Brouillasse, en l'occurrence, comme il l'a eu si bien l'occasion de me le dire, que c'était son dossier, son affaire, et que par conséquent, ce n'est pas lui qui allait comparaître devant la cour d'assises.
Pour terminer, il y a eu 5 jours d'audience. Brouillasse a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je l'ai raconté depuis, il est sorti de prison, il est même décédé. Il n'a eu aucune réaction d'ailleurs à l'énoncé de son verdict. 22 ans de sûreté, perpétuité, c'est une peine au cas où vous vous attendiez?
Mais je le lui avais dit, oui. Au fil des années d'instruction, je lui ai dit, mais Monsieur Brouillasse, vous allez être condamné à une peine très très lourde. Votre système de défense n'est pas celui qui était le mien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, madame, à un moment donné, j'ai pris la décision de mettre un terme à notre relation contractuelle, dirais-je, relationnelle. J'allais dire humaine, si tant est qu'il y ait eu l'once d'une volonté d'un partage humain avec lui, quand il était effectivement mutique. Vous avez employé un terme qui est fort et qui est réel. Mais je l'avais prévenu, et je ne dis pas pour autant que si nous avions changé notre fusil d'épaule, en tout cas si je l'avais aidé, épaulé et structuré pour aller devant la cour d'assises, nous aurions eu un résultat différent. Quant à moi, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, je ne pense pas.
Mmh. Merci pour votre sincérité, maître Gabriel Versini-Bullara. Je rappelle que vous avez été l'avocat d'Éric Bourias. Merci beaucoup, maître.
Merci à vous, madame.
En 2011, Éric Bourias demande la révision de son procès. Mais faute d'éléments nouveaux, cette demande est rejetée. Libérable à compter de 2017, il va multiplier les demandes de libération conditionnelle. Elles seront toutes refusées. Le 25 octobre 2021, la porte de la prison Saint-Joseph s'ouvre enfin. Mais ça n'est ni une victoire judiciaire, ni le début d'une réhabilitation. Bourias bénéficie d'une suspension de peine pour des raisons liées à son état de santé. Il est malade, cancer du poumon. Il est condamné par la médecine cette fois-ci. Il mourra le 12 janvier 2022 à Saint-Chamond, à l'âge de 54 ans. Éric Bourias a emporté avec lui son secret. Lui seul sait exactement ce qui s'est passé le 30 mai dans le pavillon des Bébiens, au Trimolin. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gedge. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.